Partie 3. Voici le cœur qui a tant aimé. La dévotion au cœur du Christ n'est pas le culte d'un organe séparé de la personne de Jésus. Nous contemplons et adorons Jésus-Christ tout entier. Le Fils de Dieu fait homme, représenté dans une image où son cœur est mis en évidence. Le cœur de chair est considéré comme l'image ou le signe privilégié du centre le plus intime du Fils incarné et de son amour, à la fois divin et humain, car plus que tout autre membre de son corps, il est signe ou symbole naturel de son immense charité. L'adoration du Christ. 49. Il est indispensable de souligner que nous sommes dans une relation d'amitié et d'adoration avec la personne du Christ. Attirés par son amour représenté par l'image de son cœur, nous vénérons cette image qui le représente, mais l'adoration ne s'adresse qu'au Christ vivant, dans sa divinité et dans toute son humanité, afin de nous laisser étreindre par son amour humain et divin. 50. Au-delà de l'image utilisée, il est certain que le cœur vivant du Christ, jamais une image, est objet d'adoration, car il fait partie de son corps, très saint et ressuscité, inséparable du Fils de Dieu qu'il a assumé pour toujours. Il est adoré en tant que Verbe auquel il est inséparablement uni. Il est adoré en tant que cœur de la personne du Verbe auquel il est inséparablement uni. Nous ne l'adorons pas isolément, mais dans la mesure où, avec ce cœur, c'est le Fils incarné lui-même qui vit, aime et reçoit notre amour. Par conséquent, tout acte d'adoration ou d'amour ou d'adoration envers son cœur s'adresse en réalité au Christ lui-même, puisqu'il renvoie spontanément à lui et qu'il est le symbole et l'image expresse de l'amour infini de Jésus-Christ. 51. C'est pourquoi personne ne doit penser que cette dévotion pourrait nous séparer ou nous éloigner de Jésus-Christ et de son amour. De manière spontanée et directe, elle nous oriente vers lui, et vers lui seul, qui nous appelle à une précieuse amitié faite de dialogue, d'affection, de confiance et d'adoration. Ce Christ au cœur transpercé et brûlant est le même qui est né à Bethléem par amour, qui a parcouru la Galilée en guérissant, en caressant, en répandant la miséricorde, le même qui nous a aimés jusqu'au bout en ouvrant les bras sur la croix. Enfin, c'est le même qui est ressuscité et qui vit glorieusement au milieu de nous. La vénération de son image. 52. Il faut noter que l'image du Christ avec son cœur, même si elle n'est en aucun cas objet d'adoration, n'est pas pour autant une image parmi d'autres que nous pourrions choisir. Elle n'a pas été inventée dans un bureau ni dessinée par un artiste. Elle n'est pas un symbole imaginaire, elle est un symbole réel qui représente le centre, la source d'où a jailli le salut de l'humanité tout entière. 53. Une expérience humaine universelle rend cette image unique. Il est en effet incontestable qu'au cours de l'histoire et dans différentes parties du monde, le cœur est devenu le symbole de l'intimité la plus personnelle, ainsi que de l'affection, des émotions et de la capacité d'aimer. Au-delà de toute explication scientifique, une main posée sur le cœur d'un ami exprime une affection particulière. Lorsqu'une personne tombe amoureuse et qu'elle est proche de l'être aimé, les battements de son cœur s'accélèrent. Lorsqu'une personne souffre d'abandon ou de tromperie de la part d'un être aimé, elle ressent une forte oppression au niveau du cœur. Pour exprimer qu'une chose est sincère et vient vraiment du centre de la personne, on dit « je te le dis du fond de mon cœur ». Le langage hypoétique ne peut ignorer la puissance de ces expériences. Et c'est pourquoi le cœur a acquis incontestablement au cours de l'histoire une force symbolique unique qui n'est pas seulement conventionnelle. 54. Il est donc compréhensible que l'Église ait choisi l'image du cœur pour représenter l'amour humain et divin de Jésus-Christ est le centre le plus intime de sa personne. Si l'image d'un cœur avec des flammes de feu est un symbole éloquent nous rappelant l'amour de Jésus-Christ, il convient cependant que ce cœur fasse partie d'une représentation de lui. Son appel à une relation personnelle de rencontre et de dialogue est de cette manière plus significatif. L'image vénérée du Christ, de laquelle se détache son cœur aimant, inclut un regard qui nous rappelle la rencontre, le dialogue, la confiance, des mains fortes capables de nous soutenir, une bouche qui nous adresse la parole d'une manière unique et très personnelle. 55. Le cœur a la particularité d'être perçu non pas comme un organe séparé, mais comme un centre intime unificateur, et donc comme expression de la totalité de la personne, ce qui n'est pas le cas des autres organes du corps humain, puisqu'il est le centre intime de la totalité de la personne et donc une partie représentant le tout. Il serait facile de le dénaturer en le contemplant séparément de la figure du Seigneur. L'image du cœur doit nous renvoyer à la totalité de Jésus-Christ en son centre unificateur et simultanément à partir de ce centre unificateur, elle doit nous amener à contempler le Christ dans toute la beauté et la richesse de son humanité et de sa divinité. Cela va au-delà de l'attrait qu'exercent les Cela va au-delà de l'attrait qu'exercent les différentes images qui ont été faites du cœur du Christ. On ne doit pas en effet mettre notre cœur dans des images ou leur demander quelque chose, comme le faisaient autrefois les païens, mais à travers les images que nous baisons, devant lesquelles nous nous découvrons et nous prosternons, c'est le Christ que nous adorons. 57. D'ailleurs, nous pouvons trouver certaines de ces images peu attrayantes, et invitant peu à l'amour et à la prière. Cela est secondaire, car l'image n'est rien d'autre qu'une figure incitative, et comme diraient les orientaux, nous ne devons pas en rester au doigt qui montre la lune. Bien que béni, il ne s'agisse ici que d'une image nous invitant à aller au-delà, nous incitant à élever notre cœur jusqu'à celui du Christ vivant et à l'unir à lui, alors que l'Eucharistie est présence réelle devant être adorée. L'image vénérée convoque, indique et porte, afin de nous faire passer du temps dans la rencontre avec le Christ et dans son adoration, comme il nous semble le mieux de l'imaginer. En regardant l'image, nous nous mettons face au Christ et devant lui, l'amour se fixe, contemple le mystère, en profite en silence. 58. Cela dit, nous ne devons pas oublier que cette image du cœur nous parle de chair humaine, de terre, et donc aussi de Dieu qui a voulu entrer dans notre condition historique, devenir histoire et partager notre cheminement terrestre. Une forme de dévotion plus abstraite ou stylisée ne sera pas nécessairement plus fidèle à l'Évangile, car la manière dont Dieu a voulu se révéler et se faire proche de nous se manifeste dans ce signe sensible et accessible. Un amour sensible. 59. Amour et cœur ne sont pas nécessairement reliés, car la haine, l'indifférence, l'égoïsme peuvent régner dans un cœur humain. Mais nous n'atteignons pas notre pleine humanité si nous ne nous sortons pas de nous-mêmes. Et nous ne devenons pas pleinement nous-mêmes si nous n'aimons pas. Le centre le plus intime de notre personne, créé pour l'amour, ne réalise le projet de Dieu que lorsqu'il aime. C'est pourquoi le symbole du cœur symbolise en même temps l'amour. 60. Le Fils éternel de Dieu, qui me transcende infiniment, a voulu aussi m'aimer avec un cœur humain. Ces sentiments humains deviennent le sacrement d'un amour infini et définitif. Son cœur n'est donc pas un symbole physique, qui exprimerait simplement une réalité purement spirituelle ou séparée de la matière. Un regard tourné vers le cœur du Seigneur contemple une réalité physique, sa chair humaine, qui permet au Christ d'avoir des émotions et des sentiments bien humains, comme nous, quoique entièrement transformés par son amour divin. La dévotion doit atteindre l'amour infini de la personne du Fils de Dieu, mais nous devons dire que cet amour est inséparable de son amour humain, et nous sommes aidés en cela par l'image de son cœur de chair. 61. Si, aujourd'hui encore, le cœur est perçu dans le sentiment populaire comme le centre affectif de tout être humain, c'est lui qui peut le mieux signifier l'amour divin du Christ uni pour toujours et inséparablement à son amour humain. Pie XII rappelait déjà que la parole de Dieu, qui, citation, « décrit les dispositions du cœur de Jésus-Christ », ne rend pas seulement compte de la charité divine, mais aussi des sentiments d'affections humaines. Les battements du cœur de Jésus-Christ, unis hypostatiquement à la divine personne du Verbe, ont sans doute été inspirés par l'amour et par toutes les autres affections sensibles. Fin de citation. 62. Chez les pères de l'Église, contrairement à d'autres qui niaient ou relativisaient la véritable humanité du Christ, nous trouvons une forte affirmation de la réalité concrète et tangible des affections humaines du Seigneur. Ainsi, saint Basile souligne que l'incarnation n'est pas une chose imaginaire, mais que, citation, « le Seigneur a pris sur lui les passions de la nature ». Passion voulant dire ici émotion, c'est moi qui le rajoute ça. Saint Jean Chrysostome propose un exemple. S'il n'avait pas eu notre nature, il n'aurait jamais été en proie à la douleur. Saint Ambroise affirme, puisqu'il a pris une âme, il a pris les passions de l'âme. Et saint Augustin présente les affections humaines comme une réalité qui, une fois assumée par le Christ, n'est plus étrangère à la vie de grâce. Ce qui affecte la faiblesse humaine comme la chair même de l'humanité. Citation. Ce qui affecte la faiblesse humaine, comme la chair même de l'humaine faiblesse, ainsi que la mort de la chair humaine, le Seigneur Jésus l'a pris non par une nécessité de sa condition, mais par sa volonté de miséricorde, afin que s'il arrive à quelqu'un d'être affligé et de souffrir au milieu des tentations humaines, il ne croit pas pour autant qu'il soit étranger à sa grâce. Enfin, saint Jean Damascène considère l'expérience affective réelle du Christ dans son humanité comme un signe qu'il a assumé notre nature dans sa totalité, et non partiellement, afin de la racheter et de la transformer entièrement. Le Christ a donc assumé tous les éléments qui composent la nature humaine afin qu'ils soient tous sanctifiés. 63. Il vaut la peine d'inclure ici la réflexion d'un théologien qui reconnaît que, citation, « en raison de l'influence de la pensée grecque, la théologie a longtemps relégué le corps et les sentiments dans un monde du préhumain, du sous-humain ou tentateur du véritable humain. Mais ce que la théologie n'a pas résolu en théorie a été résolu dans la pratique par la spiritualité. Celle-ci et la religiosité populaire ont maintenu vivante la relation avec les aspects somatiques, psychologiques et historiques de Jésus. Les chemins de croix, les dévotions aux plaies, la spiritualité du précieux sang, la dévotion au cœur de Jésus, les pratiques eucharistiques, tout cela a suppléé aux lacunes de la théologie en nourrissant l'imagination et le cœur, l'amour et la tendresse pour le Christ, l'espérance et la mémoire, le désir et la nostalgie. La raison et la logique ont pris d'autres chemins. » Fin de citation. Un triple amour. 64. Nous n'en restons pas cependant aux seuls sentiments humains, aussi beaux et émouvants soient-ils. Et contemplant le cœur du Christ, nous reconnaissons que ces saints et nobles sentiments, dans la tendresse, dans le tressaillement de son affection humaine, toute la vérité de son amour divin et infini se manifeste. Benoît XVI l'a exprimé ainsi, citation, « De l'horizon infini de son amour, Dieu a voulu entrer dans les limites de l'histoire et de la condition humaine prenant un corps et un cœur, si bien que nous ne pouvons contempler et rencontrer, si bien que nous pouvons contempler et rencontrer l'infini dans le fini, le mystère invisible et ineffable dans le cœur humain de Jésus le Nazaréen. 65. Dans l'image du cœur du Seigneur, un triple amour est en effet représenté et nous éblouit. Tout d'abord, l'amour divin, infini, qui se trouve dans le Christ. Mais nous pensons aussi à la dimension spirituelle de l'humanité du Seigneur. De ce point de vue, le cœur est le symbole de cette ardente charité qui, infuse dans le Christ, anime sa volonté humaine. Enfin, il est le symbole de son amour sensible. Ces trois amours ne sont pas des facultés séparées, fonctionnant de manière parallèle ou sans lien, mais elles agissent et s'expriment ensemble en un flux constant de vie. Citation. À la lumière de la foi par laquelle nous croyons que les deux natures humaines et divines sont unies dans la personne du Christ, notre esprit est rendu capable de concevoir les liens très étroits qui existent entre l'amour sensible du cœur physique de Jésus et son amour et son double amour spirituel, l'humain et le divin. Fin de citation. 67. C'est pourquoi, en entrant dans le cœur du Christ, nous nous sentons aimés par un cœur humain, plein d'affection et de sentiments comme le nôtre. Sa volonté humaine veut nous aimer librement et cette volonté spirituelle est pleinement illuminée par la grâce et la charité. Lorsque nous atteignons les profondeurs de ce cœur, nous sommes inondés par la gloire incommensurable de son amour infini de Fils éternel que nous ne pouvons plus séparer de son amour humain. C'est précisément dans son amour humain, et non pas en nous éloignant, que nous trouvons son amour divin. Nous trouvons l'infini dans le fini. L'Église enseigne de manière constante et définitive que l'adoration que nous rendons à sa personne est unique et englobe inséparablement sa nature divine et sa nature humaine. Depuis les temps anciens, elle a enseigné que nous devons adorer un seul et même Christ, Fils de Dieu et Fils d'homme, de deux natures, et en deux natures inséparables et indivisées. Et cela, d'une seule adoration, selon que le Verbe s'est fait chair. Le Christ n'est en aucune manière adoré en deux natures, à partir de quoi seraient introduites deux adorations, mais d'une seule adoration, le Verbe incarné avec sa propre chair est adoré. 69. Saint Jean de la Croix exprime que, dans l'expérience mystique, l'amour incommensurable de Jésus ressuscité n'est pas ressenti comme étranger à notre vie. L'infini s'abaisse en quelque sorte pour que, à travers le cœur ouvert du Christ, nous puissions vivre une rencontre d'amour vraiment réciproque. Il est croyable qu'un oiseau qui vole terre à terre prenne la haute aigle royale si celle-ci descend en bas voulant être prise. Fin de citation. J'ai rien compris. Et il explique que, citation, « voyant l'épouse navrée de son amour, il accourt à sa plainte étant aussi blessé de son amour parce que, en matière de personnes éprises d'amour, la blessure de l'une est commune à l'autre et ils éprouvent à eux deux une commune souffrance. » Fin de citation. Ce mystique comprend la figure du côté blessé du Christ. Comme un appel à la pleine union avec le Seigneur, il est le cerf blessé du fait que nous ne nous sommes pas encore laissés toucher par son amour. Il descend au cours d'eau pour étancher sa soif et trouve le réconfort chaque fois que nous nous tournons vers lui. Reviens, colombe, car sur le sommet des monts apparaît le cerf blessé, savourant la brise fraîche de ton vol. Perspective trinitaire. 70. La dévotion au cœur de Jésus est nettement christologique. Il s'agit d'une contemplation directe du Christ qui nous invite à l'union avec lui. Cela est légitime si nous gardons à l'esprit ce que nous demande la lettre aux Hébreux. Courir notre course pour, fixant nos esprits sur Jésus, courir notre course, fixant nos yeux sur Jésus. Cependant,
j'ai pas mis la marque.
Voilà. Cela est légitime si nous gardons à l'esprit ce que demande la lettre aux Hébreux, courir notre course, fixant nos yeux sur Jésus. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que Jésus se présente en même temps comme le chemin vers le Père. Citation de Jean 14, 6. « Je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. » Il veut nous conduire au Père. On comprend pourquoi la prédication de l'Église, et cela dès les origines, ne nous arrête pas à Jésus-Christ, mais nous conduit au Père. C'est lui qui, en fin de compte, doit être glorifié en tant que plénitude originelle. 71. Attardons-nous par exemple sur la lettre aux Éphésiens, où nous lisons avec force et clarté, dis donc, excusez-moi, que je me reconcentre, hop. Attardons-nous par exemple sur la lettre aux Éphésiens, où nous lisons avec force et clarté comment notre adoration s'adresse au Père. Je fléchis les genoux en présence du Père. Éphésiens 3, 14. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. 4, 6. En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père. Éphésiens 5, 20. Le Père est celui pour qui nous sommes faits. 1 Corinthiens 8, 6. C'est pourquoi Saint Jean-Paul II déclare que, citation, toute la vie chrétienne est comme un grand pèlerinage vers la maison du Père. Saint Ignace d'Antioche fait l'expérience de cela sur le chemin du martyr. « En moi, une eau vive murmure et dit au-dedans de moi, viens vers le Père. » 72. Le Père est avant tout le Père de Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire. Lorsque le Fils se fait homme, tous les désirs et les aspirations de son cœur humain se tournent vers le Père. Observant comment le Christ se rapportait au Père, nous remarquons la fascination de son cœur humain, son orientation parfaite et constante vers le Père. Sa vie sur terre a consisté en un parcours où il a ressenti, dans son cœur d'homme, un appel incessant à aller vers le Père. 73. Nous savons qu'il s'adressait au Père avec le mot araméen « Abba », c'est-à-dire « Papa ». À l'époque, certains furent gênés même par cette familiarité. C'est l'expression que Jésus a utilisée pour communiquer avec le Père toute l'angoisse de la mort qui lui est apparue à Gethsémani. « Abba, tout est possible, éloigne de moi cette coupe, pourtant non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Il s'est toujours reconnu aimé du Père. « Tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et Jésus, dans son cœur d'homme, s'extasier en entendant le Père lui dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » 74. Le quatrième évangile dit que le Fils éternel est tourné vers le sein du Père. 1, 18. Depuis toujours, saint Irénée affirme que le Fils de Dieu existe depuis toujours auprès du Père. Et Origène soutient que le Fils demeure dans la contemplation ininterrompue de l'abysse paternel. C'est pourquoi, lorsque le Fils se fait homme, il passe des nuits entières à converser avec le Père bien-aimé sur le sommet de la montagne. Il dit « Je dois être dans la maison de mon Père ». Regardons sa louange. Il tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit-Saint et dit « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Et ses dernières paroles, pleines de confiance, sont « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Tournons-nous maintenant Tournons maintenant notre regard vers l'Esprit Saint qui remplit le cœur du Christ et brûle en lui. Comme l'a dit Saint Jean-Paul II, le cœur du Christ est le chef-d'œuvre de l'esprit humain. Il ne s'agit pas seulement du passé, car dans le Christ Jésus est vivante l'action de l'Esprit Saint, auquel Jésus a attribué l'inspiration de sa mission. Et dont il avait promis l'envoi lors de la dernière scène. C'est l'Esprit qui aide à saisir la richesse du signe du côté transpercé du Christ, dont l'Église est issue. Conféré Vatican II, Sacrosanctum Concilium numéro 5. En définitive, citation, seul l'Esprit Saint peut ouvrir devant nous cette plénitude de l'homme intérieur qui se trouve dans le cœur du Christ. Lui seul peut introduire progressivement la force de cette plénitude dans nos cœurs humains. 76. Essayant de pénétrer le mystère de l'action de l'Esprit, nous voyons qu'il gémit en nous et dit « Abba ». La preuve que vous êtes des fils, dit saint Paul, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». En effet, l'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. L'action de l'Esprit Saint dans le cœur humain du Christ provoque en permanence cette attirance vers le Père. Et lorsqu'il nous unit au sentiment du Christ par la grâce, il nous fait participer à la relation de celui-ci avec le Père. Il est un esprit de fils adoptif qui nous fait écrier « Abba, Père ». 77. Notre relation avec le cœur du Christ se transforme alors sous l'impulsion de l'Esprit qui nous oriente vers le Père, source paternelle de la vie et origine suprême de la grâce. Le Christ ne désire pas que nous nous arrêtions à lui. L'amour du Christ est une révélation de la miséricorde du Père. Son désir est que, poussé par l'Esprit qui jaillit de son cœur, avec lui et en lui, nous allions vers le Père. La gloire est adressée au Père par le Christ, avec le Christ et dans le Christ. Saint Jean-Paul II a enseigné que le cœur du Sauveur nous invite à remonter à l'amour du Père qui est la source de tout amour authentique. C'est précisément cela que l'Esprit Saint cherche à cultiver dans nos cœurs en venant à nous à partir du cœur du Christ. C'est pourquoi la liturgie, sous l'action vivifiante de l'Esprit, se tourne toujours vers le Père à partir du cœur ressuscité du Christ. Expression magistérielle récente. Le cœur du Christ est présent de différentes manières dans l'histoire de la spiritualité chrétienne. Dans la Bible et dans les premiers siècles de l'Église, il apparaît sous la forme du côté blessé du Seigneur, comme source de grâce ou bien comme appel à une rencontre intime d'amour. Il ne cesse de réapparaître dans les témoignages de nombreux saints jusqu'à nos jours. Au cours des derniers siècles, cette spiritualité a pris la forme d'un véritable culte du cœur du Seigneur. 79. Nombre de mes prédécesseurs ont évoqué le cœur du Christ et, de manière très diverse, nous ont invités à nous unir à lui. À la fin du XIXe siècle, Léon XIII nous invita à nous consacrer à lui, unissant dans sa proposition l'invitation à l'union avec le Christ, à l'admiration de la splendeur de son amour infini. Une trentaine d'années plus tard, Pie XI présenta cette dévotion comme une synthèse de l'expérience de foi chrétienne. Pie XII affirma ensuite que le culte du Sacré-Cœur exprime de manière excellente, en une sublime synthèse, notre culte envers Jésus-Christ. 80. Plus récemment, Saint Jean-Paul II a présenté le développement de ce culte au cours des siècles passés comme une réponse à la croissance de formes de spiritualité rigoriste et désincarnée qui oubliaient la miséricorde du Seigneur, mais aussi comme un appel actuel à un monde qui cherche à se reconstruire sans Dieu. Citation. La dévotion au Sacré-Cœur telle qu'elle s'est développée en Europe il y a deux siècles, sous l'impulsion des expériences mystiques de Sainte Marguerite Marie à la Coque, a été une réponse au rigorisme janséniste qui a fini par ignorer la miséricorde infinie de Dieu. L'homme de l'an 2000 a besoin du cœur du Christ pour connaître Dieu et se connaître lui-même. Il en a besoin pour construire la civilisation de l'amour. Fin de citation. 81. Benoît XVI a invité à reconnaître le cœur du Christ comme présence intime et quotidienne dans la vie de chacun. Citation. Toute personne a besoin d'avoir un centre dans sa vie, une source de vérité et de bonté à laquelle puiser pour affronter les différentes situations et difficultés de la vie quotidienne. Chacun de nous, lorsqu'il fait silence, a besoin d'entendre non seulement les battements de son propre cœur, mais aussi, plus profondément, les battements d'une présence sûre, perceptible avec les sens de la foi et pourtant bien plus réelle, la présence du Christ, cœur du monde. Approfondissement et actualité. 82. L'image symbolique et expressive du cœur du Christ n'est pas l'unique moyen qui nous donne l'Esprit Saint pour rencontrer l'amour du Christ. Elle est et elle aura toujours besoin d'être enrichie, éclairée et renouvelée par la méditation, la lecture de l'Évangile et la maturation spirituelle. Pie XII disait déjà que l'Église ne prétend pas que, citation, dans le cœur de Jésus, l'on doit voir et adorer l'image dite formelle, c'est-à-dire le signe parfait et absolu de son amour divin, puisqu'il n'est pas possible d'en représenter l'essence intime d'une façon adéquate par une quelconque image créée. 83. La dévotion au cœur du Christ est essentielle à notre vie chrétienne, car elle signifie notre ouverture pleine de foi et d'adoration au mystère de l'amour divin et humain du Seigneur, au point que nous pouvons affirmer une fois de plus que le Sacré-Cœur est une synthèse de l'Évangile. Nous devons rappeler que les croyants ne sont pas obligés de croire, comme s'il s'agissait de la parole de Dieu, aux visions ou manifestations mystiques racontées par les saints qui ont proposé avec passion la dévotion au corps du Christ. Ce sont de beaux faux stimuli qui peuvent motiver et faire beaucoup de bien, mais personne... Ce sont de beaux stimuli qui peuvent motiver et faire beaucoup de bien, mais personne ne doit se sentir obligé de les suivre s'il ne trouve pas qu'il l'aide à avancer dans sa vie spirituelle. Cependant, il est important de garder à l'esprit, comme Pie XII l'a déclaré, que l'on ne peut pas dire que ce culte viendrait d'une révélation privée. 84. La proposition de la communion eucharistique des premiers vendredis du mois, par exemple, était un message fort à une époque où de nombreuses personnes cessaient de recevoir la communion parce qu'elles n'avaient pas confiance dans le pardon divin, dans sa miséricorde, et considéraient la communion comme une sorte de prix pour les parfaits. Dans ce contexte janséniste, la promotion de cette pratique a fait beaucoup de bien, en aidant à reconnaître dans l'Eucharistie l'amour proche et gratuit du cœur du Christ qui nous appelle à l'union avec lui. Elle ferait beaucoup de bien également aujourd'hui pour une autre raison. Parce que, au milieu du tourbillon du monde actuel et de notre obsession pour les loisirs, la consommation et le divertissement, les téléphones et les réseaux sociaux, nous oublions de nourrir notre vie de la force de l'Eucharistie. 85. De même, personne ne doit se sentir obligé de faire une heure d'adoration le jeudi. Mais comment ne pas la recommander ? Lorsque quelqu'un vit cette pratique avec ferveur, avec de nombreux frères, et qu'il trouve dans l'Eucharistie l'amour du cœur du Christ, il adore avec l'Église le symbole et comme l'empreinte de la charité divine qui a été jusqu'à aimer le genre humain avec le cœur du Verbe incarné. 86. Cela était difficile à comprendre pour de nombreux jansénistes qui méprisaient tout ce qui était humain, affectif, corporel, et qui considéraient en fin de compte que cette dévotion nous éloigne de la pure adoration du Dieu très haut. Pie XII qualifia de « faux mysticisme » cette attitude élitiste de certains groupes qui voyaient Dieu tellement haut, tellement séparé, tellement distant, qu'ils considéraient les expressions sensibles de la piété populaire comme dangereuses et nécessitant un contrôle ecclésiastique. 87. Plus encore qu'avec le jansénisme. On peut dire que nous sommes confrontés aujourd'hui à une forte avancée de la sécularisation qui aspire à un monde libéré de Dieu. En outre, Diverses formes de religiosité privées de référence à une relation personnelle avec un dieu d'amour se multiplient dans la société. Et ce sont de nouvelles manifestations d'une spiritualité sans chair. Cela est vrai. Mais je dois souligner qu'un dualisme janséniste préjudiciable renaît sous de nouveaux traits au sein même de l'Église, salaud de janséniste. Il a acquis une nouvelle force au cours des dernières décennies. Il est une manifestation de ce gnosticisme qui ignorait la vérité du salut de la chair et qui fut dommageable à une de la spiritualité des premiers siècles de la foi chrétienne. C'est pourquoi je tourne mon regard vers le cœur du Christ et je vous invite à renouveler votre dévotion. J'espère qu'elle pourra aussi toucher la sensibilité contemporaine à nous aider à faire face à ces dualismes anciens et nouveaux auxquels elle offre une réponse adéquate. 88. Je voudrais ajouter que le cœur du Christ nous libère en même temps d'un autre dualisme, celui des communautés et des pasteurs qui se concentrent uniquement sur les activités extérieures, les réformes structurelles dépourvues d'évangile, les organisations obsessionnelles, les projets mondains, les réflexions sécularisées, les propositions qui se présentent comme des prescriptions que l'on veut parfois imposer à tous. Il en résulte souvent un christianisme qui oublie la tendresse de la foi, la joie du dévouement au service, la ferveur de la mission de personne à personne, la fascination pour la beauté du Christ, la gratitude passionnée pour l'amitié qu'il offre, et pour le sens ultime qui donne à la vie. Il s'agit d'une autre forme de transcendantalisme trompeur, tout aussi désincarné. 89. Ce sont des maladies très actuelles, dont nous ne ressentons même pas le désir de guérir lorsque nous nous sommes laissés piéger, qui me pousse à proposer à toute l'Église un cœur nouveau, un nouveau développement sur l'amour du Christ représenté dans son saint cœur. Là, nous rencontrons la totalité de l'Évangile. Là se résume la vérité à laquelle nous croyons. Là se trouve ce que nous adorons et cherchons dans la foi. Là se trouve ce dont nous avons le plus besoin. 90. Devant le cœur du Christ, il est possible de revenir à la synthèse incarnée de l'Évangile et de vivre ce que je proposais il y a peu, en rappelant la chère sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, citation, « L'attitude la plus appropriée est de placer la confiance du cœur hors de soi-même, en la miséricorde infinie d'un Dieu qui aime sans limite et qui a tout donné sur la croix de Jésus-Christ. » Elle a vécu cela intensément, parce qu'elle avait découvert dans le cœur du Christ que Dieu est amour. À moi, il m'a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. C'est pourquoi la prière la plus populaire, adressée comme une flèche au cœur du Christ, dit simplement « J'ai confiance en toi. Aucune autre parole n'est nécessaire. » 91. Dans les chapitres suivants, nous allons souligner deux aspects fondamentaux que cette dévotion au Sacré-Cœur doit réunir aujourd'hui pour continuer à nous nourrir et nous rapprocher de l'Évangile. 1. L'expérience spirituelle personnelle. 2. L'engagement communautaire et missionnaire.